Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de ce qui se passe dans notre pays, puisque ça fait quand même depuis des mois qu'on parle beaucoup de ce qui se passe notamment aux États-Unis, parce qu'il se passe beaucoup de choses, faut dire, mais aussi de ce qui se passe un peu partout dans le monde, en Russie, en Chine, etc. Et dans d'autres pays européens, éventuellement, que ce soit en Allemagne, en Roumanie, au Royaume-Uni aussi. Pour une fois, il se passe quelque chose quand même dans ce pays, à savoir que Marine Le Pen, j'imagine que vous savez de qui il s'agit, a été condamnée assez lourdement à 5 ans d'inéligibilité, 100 000 euros d'amende, 4 ans de prison, dont 2 fermes aménageables sous forme de bracelets électroniques à domicile, pour l'affaire des attachés parlementaires européens. Alors, je vais résumer l'affaire en très très peu de temps, puisque c'est une affaire très simple à comprendre. Sur une période s'étalant globalement de 2004 à 2016, comme vous le savez, les assistants, enfin les parlementaires européens ont des assiettes parlementaires qui sont utilisées normalement pour des prestations de services ou des assistants qui sont donc rattachés à l'Europe, à Bruxelles. Et ces assiettes, elles sont quand même assez importantes, 21 000 euros. Et comme vous le savez, le RN a quand même d'habitude, en tout cas c'était le cas il y a quelques années, avait du mal à avoir des responsables politiques élus, que ce soit au niveau
Ils n'avaient pas un rond,
national,
surtout.
voilà, ils n'avaient pas un rond. En plus de ça, spécifiquement pour la période, oui, allons jusqu'à 2014-2016, les finances du parti étaient en très 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 mauvais état, le parti était très endetté et avait assez peu de sources de revenus. Donc quand ils arrivaient à avoir une quinzaine ou une vingtaine de députés européens, c'était la timbale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont utilisé une partie de ces assiettes, donc des 21 000 euros, pour payer des prestataires de services, mais non pas à Bruxelles, mais à Paris, donc pour utiliser des fonds pour servir le parti politique. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Il y a eu simplement, voilà, littéralement des détournements de fonds, c'est-à-dire que des fonds qui étaient censés être utilisés pour certains cas ont été utilisés pour d'autres cas, sachant que bon, dans un certain nombre de cas aussi, la frontière est un peu floue entre ce qu'on peut appeler des affaires françaises et des affaires européennes. Mais enfin, le fait est que il y a eu des détournements de fonds. Le tribunal s'est mis d'accord sur une somme globale de 4 ou 4,5 millions d'euros détournés au total, donc sur cette période assez longue. Et il y a eu tout un tas de responsables du Rassemblement national, comme Louis Alliot par exemple, ou Nicolas Bay, qui étaient autrefois au Rassemblement national, qui ont été condamnés donc à des amendes, et des peines d'inéligibilité, ou des peines, voire même avec des peines de prison, généralement 1 an ou 2 ans de prison avec sursis, c'est-à-dire qu'évidemment ils ne verront jamais le début d'une cellule. Mais enfin voilà, et c'est évidemment Marine Le Pen qui a pris le plus cher. Avec cette peine, évidemment, ce dont on parle le plus, c'est les 5 ans d'inéligibilité, parce que pour ce qui est du reste, évidemment, c'est une justiciable comme les autres, donc elle doit payer ses amendes, elle doit purger ses peines. Mais c'est vrai que l'inéligibilité, ça regarde un peu plus que la personne simplement de Marine Le Pen, ça regarde toute la société, parce que c'est évidemment la candidate à l'heure actuelle. Incontournable pour la prochaine élection présidentielle. Donc, quel est votre regard global sur ce qui s'est passé ce 31 mars où cette condamnation est tombée?
Ah, comme d'habitude, on n'a pas préparé les questions. Hein,
Bien
donc,
sûr, bien
je
sûr.
donne mes réponses, si j'ose dire, non
La
pas à
vérité, c'est
chaud,
que
mais.
moi-même, je n'ai pas préparé les questions. J'ai juste tout un tas de faits en tête et puis je rebondirai sur ce que vous dites.
Voilà. Alors, la première des choses, ça appelle beaucoup de choses. Je vais essayer de remonter le plus haut possible, aller sur la philosophie du droit. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu un progrès immense qui a été fait dans le droit par un homme qui s'appelait Abélard, qui était un philosophe à la fin du XIIe siècle, je crois, et qui a dit que d'une société devait séparer ce qui était le crime qui ressort de l'État et ce qui était le péché, ce qui ressort de l'Église. Bien. Et ça a permis, ça a été la première grande déclaration laïque, littéralement dans l'histoire de l'humanité, bien séparer ce qui était du ressort de l'Église, de la morale personnelle, du péché, et ce qui ressort du droit, qui doit être puni. Et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis un certain temps, depuis à peu près les années de l'or, quand il y a eu cette tentative de coup d'État qui a commencé en Europe, il y a une Église qu'on pourrait appeler l'Église des droits de l'homme, qui a pris le pouvoir dans nos systèmes politiques et dans nos systèmes juridiques, et en particulier en Europe, et qui a transformé donc la nature même du droit. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est exact, mais la personne qui a rendu le jugement aurait dit qu'il n'y avait pas grand-chose dans le dossier, mais que c'était une occasion inespérée d'empêcher Mme Le Pen d'aller aux élections.
Oui, oui.
Je ne sais pas si elle l'a vraiment dit, mais enfin, l'aurait-elle dit que c'est très grave, parce que ça veut dire que elle met sa morale, celle des droits de l'homme, devant le droit.
Oui. En fait, c'est surtout pour ce qui est de la peine d'inéligibilité.
Voilà. Celle de la peine d'inéligibilité, je veux bien, mais en plus, c'est exécutoire immédiatement, ce qui est rarissime dans le droit français. Donc ça veut dire... Parce que vous enlevez... La base du droit français, c'est la possibilité de l'appel. C'est-à-dire qu'une erreur judiciaire peut être commise, mais elle sera corrigée la fois d'après par la hors-là. Donc cette personne non seulement pense qu'elle a le droit moral d'empêcher Madame Le Pen de se présenter, que c'est son devoir moral, que c'est très mal, que les Français votent pour elle. Et la deuxième, elle prétend qu'elle est infaillible.
Oui.
C'est-à-dire ces deux erreurs pour un juge qui sont de nature presque inimaginables. Mmh.
Surtout quand on voit que c'est quand même une affaire très importante, on parle de Marine Le Pen, et c'est assez curieux.
Mais ce serait pour le lambda de service, c'est-à-dire que je n'accepterai jamais, prenez quelque chose, par exemple, le droit évolue. Par exemple, il était illégal, l'avortement, il y a encore 50 ans, 60 ans, 100 ans, c'était un crime. Pouvez dire, vous pouviez passer à la... On pouvait passer à la trappe si vous étiez, si vous avez facilité les avortements. Le droit a évolué, mais ça ne veut pas dire que la morale pour un certain nombre de gens a évolué aux États-Unis. Il y a toujours des différents énormes. Est-ce que le droit peut autoriser à tuer quelqu'un qui est une personne? Il y a des gens qui disent que le fœtus c'est pas une personne, d'autres qui disent que c'est une personne. On peut en discuter jusqu'à la fin des temps, personne n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a des gens pour lesquels le changement de droit n'a pas influencé leur changement moral. Donc c'est deux domaines complètement séparés. Et le seul endroit, la morale, c'est vous qui décidez, est-ce que l'avortement est possible ou pas, c'est votre décision. Mais est-ce qu'il sera puni ou pas? C'est une décision qui implique le recours à la violence légitime de l'État. Donc, là, il me semble qu'il y a une faute profonde, juridique, c'est de condamner, on y reviendra, et de condamner sans possibilité d'appel. Et là, dans le deuxième cas, c'est très grave, puisque si cette dame a fait une erreur, eh bien, elle va avoir une influence politique très grave. Ouais. Et je vois pas pourquoi une seule personne s'opposerait à la volonté de 37% des Français. Donc, c'est complètement. Donc, la première chose que je veux dire, c'est qu'il y a une société périt quand le droit est capturé par une partie de la population et s'en sert pour des raisons morales. Donc, il me semble donc que c'est un danger très grave. Et c'est une tentation dont j'ai souvent parlé ici. Qui me tracasse beaucoup, c'est qu'un peu partout dans nos sociétés, les juges font passer leur morale devant le droit. C'est-à-dire, on a vu par exemple aux États-Unis que le président Trump a eu une dizaine de procès, tous plus bidons les uns que les autres, qui n'ont donné aucun résultat, mais qui étaient simplement pour essayer de l'empêcher de se présenter. Ouais. Donc... Et on a vu l'histoire de qui s'est passé en Roumanie, rebelote, un type qui votait, le Roumain n'avait pas voté bien. Donc, il y a des gens qui sautent, c'est-à-dire qu'on est passé d'une société où le souverain, celui qui prend la décision finale, était le peuple. On rendait la justice au nom du peuple en France. Hein. Et maintenant, on la rend au nom des juges.
Oui, on la rend même, j'ai envie de dire, presque contre le peuple.
Non, contre le peuple. Et c'est des juges qui sont donc quelque part le socle de nos sociétés, qui était le pouvoir suprême du souverain, est remplacé par un pouvoir suprême du juge. Mais ça, le souverain, c'est le grand nombre. Et la science politique, c'est quelque chose d'intéressant. Les gens n'y réfléchissent pas assez. Vous avez toujours un conflit entre trois entités. Le seul, le type qui est tout seul, le roi, le tyran, les peu nombreux, les juges, allez, et le peuple. Donc, vous savez, par exemple, la royauté française a toujours été le souverain avec le peuple contre les petits, contre les autres, les bourgeois, les nobles. Et là, vous avez les peu, les juges, qui décident que ce sont eux le souverain, parce qu'ils ont la bonne morale. C'est complètement inadmissible.
Effectivement, il y a cette notion d'exécution provisoire. Alors en fait, ça s'appelle exécution provisoire. On devrait appeler ça plutôt exécution immédiate. C'est-à-dire que...
C'est exécutoire immédiatement.
Voilà, et c'est-à-dire que Marine Le Pen ne peut pas faire appel par conséquent.
Elle fait appel, mais si l'appel arrive, ce qui serait pas bien étonnant, parce que la justice étant ce qu'elle est, et surtout les juges étant ce qu'ils sont, on pourrait repousser cet appel jusqu'après les élections. Et si après les élections, on décide qu'elle n'a rien eu, que ouais. Non, qu'elle était innocente...
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe?
Ouais.
Le peuple n'a pas pu s'exprimer
ouais.
à cause d'une bonne femme à Paris.
Oui, d'ailleurs, c'était une des justifications, parce que cette notion d'exécution provisoire, normalement, elle est...
Si le type va s'en aller, s'il ouais. se barre, ou s'il reprend la fuite.
Voilà, en matière électorale, c'est pour éviter une sorte de récidive immédiate.
Ouais.
Donc là, en l'occurrence, Marine Le Pen n'est pas, n'est pas parlementaire européen.
Elle l'était à l'époque des faits.
Elle l'était à l'époque des faits, elle ne l'est plus. Elle n'est même plus présidente du Rassemblement National, techniquement, c'est Jordan Bardella.
Et en fait, en principe... Si je peux me permettre aussi,
ouais.
Dans un mouvement politique, c'est le président qui est responsable.
Oui.
C'est pas la fonction qu'il occupe qui le rend responsable. C'est pas parce qu'il est député européen qu'il est responsable. C'est parce qu'il est le président du parti.
Ouais.
Et les mêmes choses ont été reprochées à Bayrou.
Ouais.
Et sous prétexte que il était le président du parti et que la responsable des Européens, c'était une dame qui est morte depuis.
Oui.
Ça a été jugé...
Oui, finalement, donc, on met ça sous le tapis. D'ailleurs, François Bayrou, par honnêteté intellectuelle un peu, s'est lui-même étonné de la dureté de cette condamnation, parce qu'il a dit, moi j'étais président de mon parti à l'époque...
Donc il était responsable. La responsabilité s'arrête au président,
ouais.
Pas au président des députés européens, qui était Madame Sarney, je crois, je ne sais pas où il s'appelait. Donc, de Sarney, je crois. Donc, encore une fois, si vous voulez, donc on voit que ces gens ont une morale qu'ils préfèrent au droit... ou à la loi, et qu'il l'applique de façon assez variable,
oui,
selon la tête du gars qui est en face de lui.
Bien sûr. D'après l'autorité des marchés financiers, 7 Français sur 10 estiment que les investissements en actions sont réservés à ceux qui s'y connaissent vraiment. Donc vous avez de fortes chances d'en faire partie. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi rejoindre le club de ceux qui s'y connaissent, et c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Pour commencer à apprendre les bases de la finance et de la gestion de portefeuille, ça se passe ici, sur l'Université de l'Épargne. C'est là qu'on voit à quel point le juge s'instaure lui-même souverain, parce que il peut tordre le droit à travers plusieurs interprétations intriquées. Et par exemple, une des justifications du tribunal, c'est de dire si Marine Le Pen était élue tout en étant coupable des faits qui lui ont été reprochés, sachant que du coup elle aurait été élue en connaissance de cause, puisque tout le monde aurait été au courant, et donc on aurait, en toute à mes consciences, décidé de l'élire quand même, parce qu'on décide que voilà, c'est pas très bien, mais peut-être il y a pire dans la vie, peut-être les candidats en face sont pires, donc on décide de l'élire quand même, soit, c'est un peu le principe de la démocratie. Le tribunal a décidé que si cela arrivait, cela constituerait en soi un trouble à l'ordre public.
Mais c'est pas le rôle du tribunal. C'est le rôle du tribunal, c'est pas de juger de la République.
C'est dire à quel point, voilà, on tord la réalité et le droit dans tous les sens pour essayer d'aligner sa pensée avec le réel, quoi.
Et je signale que la Constitution américaine, dont beaucoup de gens disent du mal, mais les États-Unis, depuis 1777, je sais plus quand était leur Constitution exactement, n'en ont eu qu'une, alors que nous, on en a eu 12 ou 13, ou 14, ou je sais plus combien.
Ok, sans donc, compter toutes les modifications.
Toutes les modifications, sans contre le fait que pendant la moitié du temps, on n'était pas en démocratie, etc. Bon. Donc, la Constitution américaine ne pose aucune condition à l'élection du président, sauf qu'il soit né sur le territoire américain. C'est tout. Donc, les États-Unis ont le droit de voter pour un type qui serait en taule.
Oui.
Parfaitement le droit. Donc, mettre une condition à l'élection d'un président, c'est déjà une condition juridique à l'élection d'un président, c'est déjà introduire le droit dans la volonté du peuple qui en a rien à foutre.
Voilà,
c'est pas son boulot.
C'est déjà encadrer la volonté du peuple comme on veut, c'est-à-dire finalement...
Donc j'ai envie de le condamner, on a essayé de le faire avec M. Trump, ça n'a pas marché, mais il suffit de le condamner pour que M., par exemple, si mes souvenirs sont exacts, De Gaulle avait été condamné à mort pendant la Deuxième Guerre mondiale par les tribunaux de Vichy. Qui étaient des juges impartiaux et, voilà. Et donc, et je crois qu'il n'y avait qu'un seul juge en France qui avait démissionné au moment où Vichy a demandé le serment au juge.
Ça ne m'étonne pas, tiens.
Il y en avait qu'un. Il y en a eu un en tout. Donc, c'est vous dire à quel point ces hommes sont faits d'une.
D'une robustesse morale.
D'une robustesse morale considérable. Parce que. Bon. Alors. Donc, c'est la première des choses, c'est sur la philosophie du droit. Il me semble qu'on a un énorme problème. Donc, la solution à ce problème, c'est qu'il faut sortir la religion de l'État. C'est-à-dire que les droits de l'homme, qui est une religion, n'ont rien à faire dans l'État. Il y a des crimes qui sont délimités par la loi, qui est votée par le Parlement, qui devrait être souverain, mais qui ne l'est plus, mais ça, c'est autre chose. Donc par la loi, et tout ce que doit faire le judiciaire, c'est d'appliquer la loi, pas de la créer.
Ouais.
Et donc, un trouble futur à l'ordre public, c'est la question, si vous voulez, qui est essentielle en morale. Par exemple, vous êtes capable de voyager dans le temps, vous revenez à la jeunesse d'Hitler. Est-ce que vous tuez Hitler quand il a 2 ans?
Moi,
est-ce que vous avez le droit?
Ouais.
Non, mais...
C'est... Bah non, en soi, au moment des faits...
Vous allez éviter des millions de morts?
Oui, bah...
Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est exactement ce que fait cette dame.
Oui.
Elle dit, ah, ça pourrait créer un trouble à l'ordre public, donc je le fais maintenant. Mais elle, en faisant ça, elle outrepasse le rôle du droit, qui n'est pas de condamner des crimes futurs, qui est d'appliquer le droit tel qu'il existe aujourd'hui. Cette dame est une fantaisiste. Alors ça, c'est la seule philosophie du droit qui m'embête beaucoup. La deuxième chose qui m'embête beaucoup dans toute cette histoire, c'est qu'en principe, il y a la séparation des pouvoirs.
Oui.
Bon, donc, vous avez le Parlement européen qui donne des fonds à des partis politiques pour qu'ils puissent exercer librement leurs activités, qu'ils soient... La question qui se pose, c'est, une fois qu'ils sont dans les mains du législatif, le judiciaire n'a rien à dire sur l'exécution de ces biens, puisque maintenant c'est dans le domaine... législatif, c'est pas dans le domaine judiciaire, vous voyez ce que je veux dire? C'est à partir du moment où les fonds ont été transpérés, ils sont dans le domaine législatif et le judiciaire n'a rien à dire. Bon. C'est exactement comme l'affaire de Fillon. Fillon avait, les trois quarts du Parlement avaient leur femme comme, y compris le président le président de la Chambre à l'époque, qui était un socialiste, il avait sa femme et on a condamné Fillon. Parce que il avait utilisé sa femme, mais en principe, ça aurait dû être interdit, puisqu'il y avait confusion des pouvoirs. Fillon recevant de l'argent du pouvoir et exécutif, enfin, qui était lui-même du pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire n'a pas autorité pour juger.
Mais alors, qui devrait avoir autorité pour
en principe, c'est le Parlement lui-même.
C'est le Parlement lui-même.
C'est le Parlement lui-même qui peut, à ce moment-là, se mener une commission d'enquête et porter à la connaissance du public que M. Fillon a donné quelque chose de très bien, laisser le public décider s'il va voter ou pas. Donc, vous avez un vrai problème. Et moi, j'aurais été Fillon, j'aurais dit tranquillement, ben oui, j'ai embauché ma femme, et je vous emmerde.
Oui.
Je fais ce que je veux de cet argent, et vous n'avez pas le droit d'enquêter dans les...
C'est pas le moyen de défense qu'il a utilisé.
Non, il s'est remêlé les pieds du début à la fin, il a eu une défense, je sais pas qui était son avocat, mais il était nul. Et moi, j'aurais envoyé ça sur un plan de constitutionnalité, en disant, je refuse d'ouvrir les comptes, et je refuse que le Parlement donne mes comptes au législatif. Puisque je suis responsable au judiciaire. C'est absolument insensé. Du point de vue séparation des pouvoirs, c'est insensé. Qui plus est, c'est un crime qui a été commis, apparemment, si encore il a été commis. Parce qu'en effet, le président du parti peut décider que pour que l'Europe marche mieux, il faut qu'ils fassent passer leur message partout en France. Donc ils ont besoin de... Ils dépensent cet argent comme ils le veulent. C'est pas pour mettre des boulons à une là en...
C'est pas pour acheter de l'immobilier à Saint-Tropez ou
n'importe quoi.
Voilà.
Donc, c'est la question. Et ensuite, une fois que ce point est acquis, vous arrivez à un autre problème qui est tout à fait... c'est que vous vous retrouvez avec des gens qui s'autorisent à déterminer, à faire juger en France un crime qui a été commis en Europe. Attendez une seconde. Ils ont des tribunaux en Europe. Ils ont la Cour européenne des droits de l'homme.
Ils ont la Cour de l'Union européenne.
Pour quelle raison? Puisque le crime avait été commis au détriment d'une entité européenne, est-ce un tribunal français qui a jugé? Pourquoi a-t-on réintroduit en France? La réponse est toute simple, parce qu'il aurait été introduit en dehors de France, elle n'aurait jamais été condamnée.
Bah déjà, vu le nombre de partis politiques qui font ce genre de truc...
Jamais il y a une Cour de justice européenne qui aurait condamné ça, parce que vous imaginez, les Hongrois, les Polonais, tout le monde qui vivent que de ça.
Bien sûr.
Donc on a fait ça, on l'a réintroduit en France, et la justice française a accepté ce dossier, alors qu'elle aurait dû dire, c'est pas un crime qui a été compris contre l'État français, c'est un crime qui a été commis contre une entité européenne. C'est donc la justice européenne qui doit juger. Moi, j'ai rien à voir dans le schmilblick. Et donc, ça me paraît aussi... Donc, on voit très bien que cette saloperie qui a été créée par ces salopards de Hollande, qui s'appelle le parquet judiciaire... Le parquet national financier. C'est la première fois dans l'histoire du droit en France qu'on crée des juges d'instruction qui peuvent s'auto-saisir.
Oui, c'est vrai.
Donc on sait très bien que c'est un parquet politique qui a été créé pour se payer les ennemis, mettons, du Parti Socialiste, allez, puisqu'il n'y a que ça là-dedans. Or, le Parti Socialiste représente 3% des voix aujourd'hui en France, et vous remarquerez que le parquet national financier est bourré de socialistes, la cour constitutionnelle est bourrée de socialistes, le Conseil d'État est bourré de socialistes, donc on peut dire que le Parti Socialiste contrôle l'utilisation des deniers publics en fonction de sa morale, je reviens au plan précédent, et pour se débarrasser de ceux qui ne sont pas d'accord avec sa morale. Si ça continue, je le dis, j'aime pas du tout ce que je vais dire, mais si les juges ne font pas leur travail, le peuple va se révolter contre les juges.
Ouais. Et je rappelle d'ailleurs, on parle du Parti Socialiste, le Parti Socialiste en 1989 ou en 1990, avait littéralement voté une loi d'exception, une loi d'amnistie, pour amnistier tous ceux qui auraient pu être coupables de détournement de fonds avant 1989.
Mais c'était sur les fonds électoraux en France.
Ouais,
là, encore une fois, il s'agit d'un problème européen qui ne devrait pas être de la compétence des tribunaux français. Aussi bien, ben, si bien...
Ça peut s'entendre, oui.
C'est quand même extraordinaire. Et donc, quand on voit les gens à qui s'attaquent le parquet national financier, M. Fillon, vous remarquerez que c'est toujours c'est jamais des socialistes. On va pas chercher ce qu'aurait fait le mari de telle ou telle personne en Géorgie qui se trouvait être la fille du président et qui se trouvait être maintenant un élu socialiste et qui a fait des choses, paraît-il, qui sont pas bien nettes. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est implicitement derrière, ils vous disent nos idées sont minoritaires, mais notre morale qui est portée par la justice que nous avons mise en place est majoritaire. Oui, et elle dominante. Est super dominante. Et ça, c'est violemment antidémocratique.
Oui, bah là, pour le coup, on se dit, je ne veux pas laisser au peuple la capacité de choisir malgré ça. Alors que je pense qu'en plus, en termes de, comment dire, dans les faits, en termes pratiques, la condamnation, les 4 ans de prison, les 100 000 euros d'amende, le fait que le RN ait détourné 4 millions d'euros, machin.
Mais il n'a peut-être pas détourné. Soutiens, c'est qu'il a le droit de dépenser ce pognon comme il le veut.
Moi, je pense aussi, je suis pas du tout choqué par les faits. Mais je veux dire, la condamnation étant la condamnation, je pense que la condamnation suffisait en elle-même à rendre le terrain extrêmement glissant pour Marine Le Pen. Et donc, en fait, les 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, la mettre limite dans une position de victime. Et je voudrais aussi rebondir sur un truc.
Ça veut dire dans une position de victime. Ouais. Ça veut dire que ben qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire soit il va y avoir l'appel qui va être entendu à temps.
Oui. A priori, ça devrait il devrait y avoir le jugement en appel à l'été 2026.
Et pourquoi tant tellement de temps? Ils sont tellement pressés.
Je sais pas. Ils sont très occupés.
Il y a des cas. Vous savez, encore une fois, dans la Constitution américaine, quand il y a un conflit entre deux pouvoirs,
oui.
Il peut être appelé devant la Cour suprême en urgence absolue.
Oui.
Donc, ça m'étonne qu'il n'y ait pas français quelque chose qui soit l'urgence absolue. Conseil d'État se réunit, ouais. Ou j'en sais rien. Je sais pas qui est, ou la Cour de cassation, je sais pas qui. Et ensuite, moi, si j'avais été l'avocat, j'aurais plaidé la non-acceptabilité de le jugement par un truc français d'un impôt européen. C'est pas les mêmes entités. Si quelqu'un a été lésé dans l'histoire.
C'est le Parlement européen.
C'est le Parlement européen. Donc ça doit être jugé par une Cour européenne. Qu'est-ce que c'est, histoire de fou, quoi? Moi, j'aurais dit, je me présente même pas aux audiences.
Ouais.
Je refuse ça.
C'est pas,
Cette façon qu'ont les avocats d'accepter. L'ordre du jour déterminé par les ennemis, j'aurais dit, moi, simplement, je suis désolé, mais non, mon client ne se présentera pas, il est tout prêt à se présenter devant une cour européenne, mais devant une cour française, à partir du moment où les fonds ont été levés en France, transférés à l'Europe, ils sont plus sous le contrôle de l'Europe, ils sont sous le contrôle de la France, ils sont sous le contrôle de l'Europe. Donc, j'aurais dit, c'est hors de question parce que votre jugement risque d'être biaisé par la situation politique française.
Ça peut s'entendre. Et puis, je soulève aussi un problème de droit. Alors, j'aimerais avoir une réponse définitive là-dessus parce que c'est aussi autre problème. Je n'ai pas pu mettre la main sur la décision de justice en elle-même. Elle est censée faire 150 pages. Je voulais regarder un petit peu ce qui se passait dedans. Le tribunal de Paris, la cour, comment dire, le tribunal correctionnel n'a pas sorti son arrêt, sa décision encore. Donc, je regarderai.
C'est incroyable.
Ce qui est incroyable. Normalement, surtout sur une décision de cette importance, quand même. Normalement, on l'a dans l'après-midi, quoi. Bref. La peine d'inéligibilité, donc pas le reste, mais l'inéligibilité, découle de l'article 432-17 du Code pénal, qui a été modifié par la loi Sapin 2, qui est entrée elle-même en vigueur le 9 décembre 2016. Cette loi Sapin 2, elle avait été faite en réponse à l'affaire Cahuzac.
Oui. Donc
pour le coup, Cahuzac, détournement de fonds.
C'est pour ça qu'on avait fait aussi.
Personnel, etc.
C'est pour ça qu'on avait fait aussi ce parquet financier à
absolument.
Cause de l'affaire Cahuzac.
Absolument. Et donc, en droit français et dans beaucoup d'autres systèmes juridiques, il y a un principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus dure. C'est-à-dire, vous avez commis
bien sûr.
S'il y a une loi pénale plus dure qui arrive après, bah, on ne vous rend pas coupable pour autant.
C'est un principe du droit romain sur lequel tout notre droit s'appuie, c'est nulla crimen sine lege.
Voilà.
S'il n'y a pas de crime, s'il n'y a pas de loi. Donc, si Mme Le Pen a été condamnée en fonction d'une loi qui est arrivée après tout ou partie des soi-disant crimes qu'elle a commis, elle est innocente.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est une décision qui va être cassée. Donc, c'est même pas possible.
Si vous avez entendu, si vous avez prêté attention à ce que j'ai dit, les faits reprochés, normalement, c'est sur la période 2004-2016. Donc, par défaut, on entend, en fait, ça s'appelle une infraction continue, c'est-à-dire que vous faites un truc et même si... La partie d'avant est comprise avec la partie d'après. Absolument. L'entrée en vigueur de la loi. On sépare pas les faits comme on considère que l'infraction est un fait continu. Voilà. Donc, on s'en fiche de savoir s'il y a des trucs qui sont passés avant, mais on veut savoir s'il y a des trucs qui sont passés après.
Oui.
Or, la loi Sapin 2 entre en vigueur le 9 décembre 2016, et la période des faits reprochés va de 2004 à 2016, donc par défaut jusqu'au 31 décembre 2016, qui comprend donc 22 jours de commission de l'infraction après l'entrée en vigueur de la loi.
Il faudrait voir en détail. Les décrets d'application, ils sont sortis quand? De la loi.
Ah bah justement, les décrets d'application, ça devait être le 9 décembre, parce que la loi avait été votée.
Elle a commis des crimes pendant 15 jours, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que évidemment la loi avait été votée bien avant, mais elle est entrée en vigueur avec décret d'application, etc. Le 9 décembre 2016.
Seulement, ce qui compte, c'est les décrets d'application.
Pourquoi 2016? Enfin, pourquoi les faits comptent jusqu'en 2016? Parce que selon le tribunal, les faits ont cessé en 2016. Mais du coup, la date exacte de la cessation des faits a son importance.
Bien sûr.
Puisque on considère qu'il y a de la rémunération de personnes qui n'auraient pas dû avoir lieu. Donc ça veut dire qu'il y a des contrats. Mais donc la date exacte de ces contrats a une importance.
Mais capitale. La rémunération de ces trucs qui n'ont pas eu avoir lieu, etc., encore une fois, c'est pas du ressort du système politique français, c'est du système juridique de l'Europe. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui donne le droit au droit français de juger que quelqu'un a commis une fraude contre la Commission européenne, ou j'en sais rien, ça n'est pas de son ressort, quoi. C'est pas... Donc, toute cette histoire me paraît... Ça me paraît une histoire de juge devenu fou.
Mais
on les voit partout, ces juges devenus fous, si vous les voyez. Par exemple, en Angleterre, il est en train de se passer un phénomène dont on n'a pas parlé, mais qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont fait des aménagements au code pénal en Angleterre, etc., et qu'ils ont décidé que le même crime commis si vous étiez blanc ou si vous n'étiez pas blanc était beaucoup plus grave si vous étiez blanc.
Ouais.
Mais il faut être fou. Je veux dire, et donc les Anglais sont comme des fous, en disant, on a imposé au monde l'égalité de tous devant la loi, et puis d'un seul coup, on nous dit,
si vous êtes blanc, c'est plus grave.
Plus grave. Non, mais... Vous rendez compte l'espèce de déviation que cette histoire des droits de l'homme, parce que c'est sans doute les hommes blancs ont commis plus de crimes contre les droits de l'homme, ce qui reste à prouver d'ailleurs.
Ouais.
Et donc à ce moment-là, vous êtes réputé plus dangereux.
Oui.
Plus...
Ou parce qu'ils sont censés être plus responsables que les autres finalement. Les autres, c'est presque des enfants, quoi. Ils savent pas vraiment ce qu'ils font, que les blancs, eux, ils sont en pleine possession de leurs moyens.
Non, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'on arrive à petit à petit détruire ce qui faisait la force du droit, c'est qu'il était il est égal pour tous.
Ouais.
Et moi, la première des choses que je ferais, si vous voulez, c'est que je porterais irrecevabilité parce que les crimes commis par le président Bayrou sont exactement les mêmes que les crimes commis par la présidente Le Pen.
Ouais.
Donc, pourquoi? Parce que alors, c'était Madame de Sarcey qui était l'exécutrice, mais à ce moment-là, si vous voulez, la responsabilité ultime appartient toujours au responsable ultime, le président. Quand vous êtes président d'une société, par définition, vous êtes révocable ad nutum. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut vous virer du jour au lendemain.
Oui.
Parce que vous étiez peut-être pas au courant, mais c'est vous qui êtes responsable. On peut être responsable sans être au courant.
Bien sûr.
Et on comprend.
On considère que si vous n'êtes pas au courant, c'est que c'était quand même de votre faute et que vous aviez qu'à être au courant.
C'était votre responsabilité d'être au courant.
Ouais.
Donc tout ça, ça me paraît des arguties juridiques qui pour défendre l'indéfendable.
Absolument. Et d'ailleurs, il y a aussi quelques astuces. Par exemple, il y a la notion de liberté électorale qui a été reconnue, par exemple, à l'égard de Louis Alliot. Mmh. C'est-à-dire que Louis Alliot, il a été condamné à 6 mois de prison ferme, 3 ans d'inéligibilité, mais sans exécution provisoire. C'est-à-dire que lui, il peut faire appel et pendant ce temps-là, il n'a pas de problème avec son mandat, etc. Et la justification du tribunal, c'est pour préserver la liberté des électeurs qui ont choisi leur maire. Très bien, on entend tout à fait cet argument, mais du coup, pourquoi ne pas préserver aussi la liberté des électeurs pour l'élection présidentielle à venir à laquelle...
Il y a une autre élection qui se passe, qui est bon aussi, c'est qu'il va y avoir des élections à partir du 9 juin de cette année.
Ouais.
Parce que le Parlement va être...
C'est-à-dire qu'effectivement...
Et à ce moment-là, Marine Le Pen ne sera plus élue. Ouais. Elle peut pas se présenter.
Elle peut pas se présenter, effectivement. C'est-à-dire qu'on a parlé sans cesse de il y avait la non-censure du gouvernement Bayrou, il y avait l'acceptation de l'autre au Conseil constitutionnel.
Une belle histoire, le truc.
Oui. À chaque fois, ça a été fait. Le RN a voulu jouer le beau jeu, etc., en se disant si je joue calme, fair play, ils vont pas m'attaquer au tribunal.
Ça leur apprendra quelque chose, si vous voulez, c'est que là, ça ne sert à rien d'être élégant avec des salopards. C'est que dans les rôles domaines, c'est dans les, y a que dans les films d'Audiard où les salopards ont une morale. Non, les socialistes sont des ordures, ça a toujours été des ordures. J'ai toujours eu une grande sympathie pour les communistes et aucune pour les socialistes. Donc, si vous voulez, pour moi, j'ai toujours fait une différence. Les communistes, c'est des gars qui se trompaient. Ouais. Les socialistes, ça a toujours été des ordures.
Ouais.
Donc, c'est une preuve de plus, quoi. C'est quand même Mitterrand qui avait exécuté le plus de gars quand il était ministre de l'Intérieur. Il avait fait guillotiner 34 ou 35 gars du FLN. Et après ça, il vient pleurer dans les chaumières en disant qu'il est contre la peine de mort.
Ouais. Et c'est François Hollande qui a commandité le plus d'exécutions lors d'opérations à l'extérieur.
Ouais.
Aussi.
Donc,
un enfant de la fin de la peine de mort vous me liquidez tout ça en vitesse.
Vous liquidez tout ça en vitesse sans en parler. Donc, si j'ai un conseil à donner aux Français, c'est, ben Dieu, mais arrêtez de voter pour ces socialistes, c'est des ordures. Ça a toujours été des ordures. Et ça le restera toujours. C'était les deux tiers du prêt du cabinet de Pétain, c'était des socialistes. Cabinet de Pétain, faut pas l'oublier quand même.
On avait un paquet. Et des radicaux aussi.
Les radicaux de gauche,
quasiment la même famille, ils sont cousins.
C'était la continuation, l'affiliation, ouais, oui.
C'était un peu les mêmes.
Donc c'est eux qui ont commencé la guerre d'Algérie. Enfin bref, il n'en a pas raté une. Avec Guy Mollet.
Ce que je trouve assez étonnant aussi, c'est que... il y a un peu deux camps. Il y a des gens... Bon, il y a tous ceux qui sont déjà dans le camp RN ou assimilés qui critiquent cette décision de justice. Évidemment, ça m'intéresse très peu. En revanche, il y a d'autres personnalités qui sont pas du même camp qui ont critiqué la décision. Jean-Luc Mélenchon a dit que
il est pas net lui non plus. Alors, il a deux ou trois affaires qui traînent. Hein.
Évidemment, Mélenchon, sa parole, elle est liée au fait que il va y passer aussi.
Mm-hmm.
Donc il fait pas le malin. Voilà,
il y a sa compagne qui a quelques trucs qui lui traînent aussi.
Voilà, absolument. Donc lui, il dit destituer un élu, ça devrait revenir au peuple. Bon, j'entends, mais sa parole est un peu conditionnée par le fait qu'il va devoir y passer aussi, donc il fait pas le malin. Gérald Darmanin aussi a voulu critiquer cette décision. Jacques Attali, d'ailleurs, même. Alain Jakubowicz. Mais il y a par exemple Noël Lenoir aussi qui est membre honoraire du Conseil constitutionnel.
Ça, c'est intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Noël Lenoir, c'est pas mal ça.
Qui estime que la décision n'est pas fondée en droit sur ce qui est notamment de l'exécution provisoire. Et d'ailleurs, elle avait aussi sur le plateau de LCI, je trouvais ça marrant, elle avait repris la formule de Mitterrand, les juges ont tué la monarchie, ils tueront la République.
Bien sûr.
Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, effectivement. Ouais.
Et ils sont en train de faire au nom d'une religion.
Oui.
Au nom d'une religion. Et que c'est la même chose, c'était au nom de la religion des droits de l'homme, etc. Parce que ce qui avait tué la République, la monarchie, c'était les parlements. Vous savez, le Parlement de Paris, qui n'était pas un parlement, qui était élu par personne, qui était des gars qui avaient acheté leur charge, mais qui voulaient prendre le pouvoir politique. Donc ils ont passé des arrêts, etc. Il y a eu une bagarre entre le Parlement et la royauté, parce
Absolument.
Que l'un était légitime, l'autre ne l'était pas. Et ils ont agi pour devenir légitime et remplacer la royauté. Mmh. Et donc on voit bien que le but de ces gars-là, les héritiers des parlements de Paris, c'est de renverser la République pour faire un gouvernement des juges. Et alors, si ça vous amuse, relisez la Bible, parce que les Juifs, dans leur histoire, dans la Bible, ils ont tout essayé. Le gouvernement des juges, le roi, la démocratie directe, ça a toujours merdé. Il n'y a jamais rien qui a marché. Mais le pire, c'était sans doute le gouvernement des juges. C'est toujours le pire. Parce que ils font le mal en prétendant faire le bien. C'est-à-dire, un bon tyran, ouais. si vous voulez, il fait le mal, mais il sait qu'il le fait, il en a rien à foutre. Tandis que là, en plus, ils sont cafards. Mmh. En plus, ils sont des tartuffes.
Ouais, ils sont assez irrévocables. Enfin, c'est...
Et puis, ils s'appuient sur le droit, la loi. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que la loi?
Oui.
Si
oui,
c'est la souveraineté du peuple.
Je ne fais que dire la loi.
Je ne fais que dire la loi. La loi, je t'en fous. Donc, encore une fois, on trouve cet énorme... Pour moi, le Parti Socialiste, c'est les tartuffes. Mmh. Ces tartuffes cachés, ce sein que je ne saurais voir et...
Et c'est assez étonnant parce que il y a autant il y a ceux qui font preuve un peu d'honnêteté intellectuelle qui disent bon excusez-moi mais normalement je croyais qu'on était quand même en démocratie donc bon c'est évidemment c'est
et surtout, la loi doit être la même pour tous c'est ouais. vrai elle est pas la même pour tous
non là en l'occurrence pour ce qui est de l'inéligibilité c'est pas la même pour tous
et pour la condamnation parce que bah, Bayrou de secours ouais. il lui a rien arrivé hein.
Mmh, oui c'est vrai c'est-à-dire que en fait elle comment dire Marine Le Pen elle a été jugée en tant que présidente du Rassemblement National et du Front National à l'époque.
Lui, mais, il était président et président
mais
de
l'autre parti. Si le tribunal effectivement voulait être, comment dire, fair play avec tout le monde de la même manière, alors elle n'aurait pas été jugée en tant que présidente, elle aurait été jugée uniquement en tant que parlementaire à l'époque. Et du coup, elle aurait eu la même condamnation que les autres.
Ou alors, il faut dire que le président n'est pas responsable de ce que fait le responsable local qu'il a désigné, ce qui est une contre-vérité. Non, c'est simplement parce qu'il fallait innocenter Bayrou qui était le soutien de Macron. C'est tout, quoi. Voilà, on n'a pas été chercher plus loin. Et puis, il avait... Donc, pour moi, je trouve... Si vous voulez, c'est... Du point de vue philosophique, du point de vue pratique du droit, du point de vue de la souveraineté, du point de vue constitutionnel, ça montre à quel point notre pays est malade.
Oui.
Je n'ai aucune sympathie ni pour Marine, ni pour quoi que ce soit. Oui. Mais je dis simplement... C'est vraiment les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Quoi. C'est-à-dire que c'est une justice à géométrie variable qui est rendue par des gens qui ont des agendas politiques. Et d'une des premières des choses qu'il faudrait faire si on avait un gouvernement un jour raisonnable en France, c'est la magistrature, pas plus que l'armée, pas plus que la gendarmerie, pas plus que n'importe laquelle des fonctions régaliennes, ne peut se syndiquer.
C'est oui,
parce qu'il ne peut pas y avoir de justice syndicalisée. Ça n'existe pas. Mm-hmm. C'est une contradiction absolue.
Oui, bah, le syndicat de la magistrature, qui correspond à peu près à un tiers des membres de la magistrature, donc ça fait quand même...
Je suis persuadé que tous les membres de ce truc financier qu'a contré sont déjà membres du syndicat de la magistrature. Mm. Il n'a pas mis autre chose que des socialistes là-dedans.
Et d'ailleurs, il n'y a pas que le syndicat de la magistrature comme syndicat, mais disons, c'est le plus connu, le plus à gauche, etc. Et le syndicat de la magistrature revendique ouvertement de ne pas être aveugle. La justice doit être aveugle. Et elle revendique. Revendique ouvertement de ne pas être aveugle.
Et si vous voulez, tout ça, c'est. Je reviens à toute une série de décisions, mais. Ces décisions qui sont prises en fonction de critères politiques sont attentatoires à la justice.
Mmh, ouais.
Et à la
et c'est étonnant de voir aussi d'autres personnalités dire à quel point il est strictement impensable de critiquer cette décision parce que critiquer cette décision, c'est critiquer l'état de droit, c'est critiquer.
Et alors, ils auraient...
Pendant l'affaire Dreyfus, j'aurais bien voulu les voir, les mecs. Parce que,
pendant qu'on condamnait mon père ou De Gaulle à mort pendant la guerre de 40, là aussi, c'était. Pétain était légitime puisque là. L'Assemblée avait transféré ses pouvoirs à Pétain, donc c'était absolument légitime.
Et si la justice était absolument infaillible, à ce moment-là, il n'y aurait pas besoin de jugement d'appel. Pourquoi vouloir un jugement d'appel?
Non seulement ça, mais
le premier jugement
mais à ce
est
parfait. On aurait la peine de mort. Parce qu'une justice, la seule...
Elle ne pourrait pas se tromper.
Elle pourrait pas, si elle ne se trompait pas, la seule défense de la non-peine de mort, c'est une peine irrattrapable, suppose une justice infaillible. Mais si la justice est infaillible, on peut mettre la peine de mort, c'est pas un problème.
Mmh, absolument. Et il n'y aurait pas besoin d'avocat non plus. Puisque de toute façon, le juge, il sait très bien ce qu'il fait. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'aide pour la défense ou pour je sais pas quoi. Le juge,
qui a introduit la nécessité de l'avocat dans les débats publics
Je ne sais pas.
Vous savez pas?
Je ne sais pas.
C'est l'Inquisition.
Ah oui.
L'Inquisition catholique, qui, comme il y avait des gens qui veulent juger en fonction de la foi, a dit c'est pas bien du tout de juger en fonction de la foi, l'Inquisition catholique. Il faut donc que ça soit représenté par un avocat. Et ça a interdit aussi, l'Inquisition a interdit les témoignages anonymes. Si vous vouliez faire un témoignage, il fallait... Donc, vous voyez que l'Église catholique était parfaitement au courant des deux dangers que ces gars-là refusent de voir, c'est-à-dire l'anonymat, la morale collective...
En effet, c'est vrai que l'Inquisition a très mauvaise réputation. Alors, il n'y a pas que des bons aspects, bien sûr, à l'Inquisition, mais en soi, sur la procédure
c'est
judiciaire...
C'est le lieu de l'ordre
ça, il y a eu des avancées avec l'Inquisition.
Donc, c'est assez rigolo de voir que... Ouais. Dans le fond... La morale des droits de l'homme, elle n'a même pas cette modestie qu'avait l'Église catholique de demander à ce que ce soit contradictoire et que ce soit visible par tout le monde et que ce soit ouvert au public. Ouais. Ensuite, l'étape suivante, c'est le jury. Donc moi, ça m'aurait pas du tout gêné que Mme Le Pen soit condamnée par un jury qui aurait été tiré vraiment au hasard avec 12 Français dedans.
Oui.
Mais avec des juges qui sont politisés, achetés, vendus au Parti socialiste.
Ouvertement politisés. Hein,
ouvertement politisés, qui n'en font pas mystère, je trouve ça scandaleux.
La présidente du tribunal, elle-même, a dit de son propre chef qu'elle était une grande admiratrice d'Eva Joly, par exemple.
C'est incroyable, ça.
Alors, je me demande juste comment ça se fait.
quand on a vu la façon dont Eva Joly a martyrisé, comment s'appelait ce pauvre... Le breton, là, qui était patron de la SNCF, et patron de...
Alors là, je ne vais pas le retrouver.
C'est celui qui a été aussi patron de la Société pétrolière française. Et c'était lui, c'était... Si on l'a interrogé ici, vous savez, c'est ce type. Non, c'est pas dans Normandie, c'est celui qui parle tout le temps en ce moment en faveur de l'industrie française, vous savez, c'est... vous connaissez que lui, alors, il a un nom breton. Bref. Si vous connaissez que lui, il était un des favoris de Mitterrand, c'est lui qui avait. Il avait fait la. Je connais que lui en plus, il avait fait l'école. Une école à Grenoble, bref. Enfin bref, tout ça, c'est simplement pour dire que. On a peut-être respecté la lettre du droit, mais on a foutu en l'air l'esprit de la justice.
Mmh. C'est pas le floc Prigent,
le floc Prigent. Le floc Prigent, elle l'a martyrisé, elle a fait des trucs qui étaient... Et ensuite, cette dame, après avoir fait une carrière lamentable en France où elle avait abusé du droit, elle a été se faire élire en Norvège comme membre du... Oui. De je sais pas quoi.
Ouais.
Ou en Suède. Bon. Donc... Le juge est encore une fois dans la Bible, celui qui est le plus puni, c'est le juge qui trahit. C'est toujours, il n'y a rien de pire pour la marche de la société qu'un juge qui ne fait pas son boulot, qui n'est pas juste.
Ouais. Voilà, je peux vous dire qu'elle est persuadée de faire bien son boulot. Enfin,
mais c'est là où
elle, pour la présidente du tribunal.
J'entends bien, mais c'est justement parce qu'elle est persuadée de faire son boulot qu'elle aurait dit. Moi, quand je jouais beaucoup au tennis, je raconte toujours cette histoire. Mon père, il m'accompagnait dans les différents tournois. Et de temps en temps, les gens lui disaient bah, écoutez, mon colonel, venez arbitrer. Et moi, je disais jamais. Parce que s'il y avait une balle en doute, il me la filait toujours contre moi, quoi. C'était.
Ouais.
Donc, si vous voulez, parce que lui, c'était un juge honorable.
Ouais, ouais.
Il aurait donné une balle à son fils, quoi.
On est beaucoup plus dur en famille.
Non, mais c'est simplement parce qu'il avait tellement peur d'être considéré comme non juste.
Oui.
Qu'il faisait l'équipe, qu'à la limite,
un
juge de qualité devrait savoir quelle est sa tendance profonde. Et essayer d'y résister, quoi.
Ouais. Alors là, je peux vous dire, c'est l'exact inverse, en l'occurrence.
Eh ben, c'est inadmissible.
Personne, vraiment, j'ai regardé la télé en attendant justement le verdict, et c'était hallucinant à quel point tout le monde, même les journalistes les plus anti-Le Pen possibles, étaient un peu choqués sur le moment de la décision. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait probablement à une inéligibilité, peut-être de 1 an, 2 ans, certainement pas avec exécution immédiate d'ailleurs.
Ce qui est attentatoire au droit commun. L'exécution immédiate, c'est inouï. Mm. C'est au cas de récidive, de danger pour l'ordre public, etc.
C'est ça, il y a un danger dans...
Donc elle s'est servie des armes du droit en outrepassant ce qui est la norme. Et donc, cette dame, elle aurait condamné allez, je vais dire, les procès publics de Moscou en 1936, je ne sais plus comment je me souvenais, je ne sais plus son nom, mais le procureur général, il était persuadé que tous les types qui condamnaient, c'était des méchants. Mais ouais. Qu'ils soient méchants ou bons, on s'en fout. La question, c'est, est-ce qu'il a fait quelque chose d'illégal ? Pas s'il est méchant ou s'il est bon. On s'en fout, c'est pas ça le droit.
Bien sûr. Oui, non, mais c'est sûr que, comment dire, comme ils n'ont aucun contrôle de toute manière, personne ne va les empêcher d'outrepasser leurs fonctions. Et.
J'ai peur que le peuple prenne ce contrôle sur lui-même.
Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, il y a un continuum. On a vu ce qui s'est passé avec la justice aux États-Unis, ce qu'ils ont tenté de faire sur Donald Trump, avec le succès brillant que ça a eu d'ailleurs.
Mais ça continue parce que maintenant, il y a le président du Parti démocrate aux États-Unis, le sénateur en chef, Schumer, qui a dit qu'ils avaient mis 250 juges. Qu'ils avaient réussi à placer 250 juges pendant qu'ils pouvaient nommer les juges, les 4 ans où Biden était là, avec mission de lancer des procès pour empêcher Donald Trump de virer celui-ci, de faire celui-là. Donc, ils se servent de la justice. Ils ont mis des juges politiques et ils entendent que les juges politiques fassent leur travail de juges politiques. C'est-à-dire, empêche Musk de virer des gars parce que c'est pas...
Ouais, ouais.
Donc, si vous voulez, on voit bien que c'est fait partie de cette croyance de la gauche, que la justice étant orientée en faveur des méchants, ils doivent, eux, la ramener dans le sens du bien.
Ouais.
Ils sont fous.
Et c'est pareil avec ce qui se passe en Roumanie, mais à chaque fois, ce que je note, c'est qu'en ce moment...
ça commence à se voir. Hein.
Ça commence à se voir, et ça se retourne beaucoup contre eux.
Ben oui.
Plus ils essayent, justement, plus cela crée de la méfiance dans le peuple, avec des gens qui se disent, mais en fait, je pensais qu'on avait le choix, visiblement, on n'a pas le choix. Donc comme maintenant je sais qu'on n'a pas le choix, je vais voter contre
ce qui s'est passé avec Trump. Voilà.
C'est ce qui s'est passé avec Trump, évidemment. Ces déboires judiciaires, je pense, lui ont rendu service, même si ça a dû beaucoup le fatiguer. Mais ça lui a rendu service.
Il avait du pot d'être milliardaire, parce que
ouais. Effectivement,
n'importe qui d'autre, il aurait, quand avec 400 millions d'amende qu'on lui avait collé.
Ah, vous laissez tomber, vous dites c'est bon, j'arrête là.
Je suis ruiné, ma famille est ruinée.
C'est sûr.
Donc, ce sont des gens qui ne comprennent pas fondamentalement que le bon et le bien, le mal, ça passe au milieu de nous. Et qu'il faut lutter contre cette tendance qu'on a de croire que ce qu'on pense, c'est le bien, et ce que les autres pensent, c'est le mal.
Oui, absolument.
C'est ça le crime.
Surtout quand on est juge. Donc, c'est littéralement votre métier, pour le coup.
Oui.
Vous êtes fait pour ça, normalement. Donc vous devez penser contre vous-même et penser en dehors de vous-même, sinon vous n'êtes pas jugé. Voilà. Et ensuite, un petit peu, comment dire, politiquement, alors il y a un sondage qui est paru le lendemain de cette décision de justice, donc hier, au moment où on fait cette émission, donc en connaissance de cause, et qui demandait aux gens s'ils voteraient Bardella ou pas. En gros, enfin, il y avait les candidats actuels présumés, Philippe, Bardella, Mélenchon, Zemmour, Wauquiez, Tondelier, Roussel, machin, Olivier Faure pour le PS, et sans grande surprise, Bardella est donné premier au premier tour, avec 36% d'intention de vote, donc aucun aspect...
C'est Philippe à 25, le gars qui a créé les Gilets jaunes.
Bien sûr, j'attends de voir, parce qu'une campagne présidentielle, c'est long. Philippe, dès qu'il dit un truc, c'est très impopulaire. Et en plus de ça, je pense qu'il a quand même un déficit de charisme. Philippe, bien sûr, le sondage, c'est réalisé à un instant T. Ils disent pas voilà ce que seront les résultats. Ils disent voilà à l'heure actuelle, en demandant aux Français ce qu'ils voteraient. Et pareil, Mélenchon, il fera, je pense, bien mieux que 13%. À chaque fois, il commence très bas et puis il finit à 20% à ces alentours-là. Donc voilà. Mais enfin, ce que simplement ça illustre, c'est à quel point Bardella n'est pas du tout affecté, négativement en tout cas, par
cette
décision.
Le truc le plus rigolo, allez, je vais faire un scénario fiction qui me ferait rire, là, c'est bon. Le président de la République dissout le Parlement le 9 juin. Allez, pendant l'été, à n'importe quel moment, parce que la situation devient insupportable. Bon, on fait appel au peuple. Bardella mène la campagne des législatives et ils ont une majorité absolue à la Chambre.
Oui.
Et à ce moment-là, il demande à ce que Marine Le Pen soit Premier ministre. Rien ne l'interdit.
Non, bien sûr.
Elle n'est pas élue.
Oui, c'est pas élue, oui.
Elle peut tout à fait être Premier ministre.
Absolument.
Et lui, il reste en réserve de la République pour les élections présidentielles.
Absolument. Il pourrait même voter une loi d'amnistie, d'ailleurs, pour faire en sorte qu'elle puisse se présenter à l'élection suivante. C'est tout à fait possible.
Donc,
d'ailleurs, Ciotti va essayer d'utiliser une niche parlementaire pour faire un truc du genre.
Oui.
Bon, avec l'élection, avec l'Assemblée actuelle, donc c'est pas du tout dit que ça aboutisse.
Oui, peut-être que LFI va voter. Il y a le patron qui pourrait y passer aussi.
Ah bah oui, et je peux vous dire que LFI... Mélenchon il fait pas le malin, mais tous les autres font pas les malins non plus, parce que sans Mélenchon la hiérarchie elle est pas du tout claire en leur sein, donc ils savent très bien que ça va être la guerre et que personne n'arrive à émuler autant le peuple de gauche d'extrême gauche que Mélenchon.
Surtout Mélenchon, pour des raisons qui m'échappent, il plaît beaucoup aux journalistes, donc on l'interroge tout le temps.
Oui.
Donc si vous voulez, enfin ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait se retrouver avec avec Madame Le Pen, Premier ministre, et Monsieur Bardella, président.
Oui. Ce serait possible.
C'est tout le mal que je souhaite à ce juge.
Ce serait possible.
Et j'imagine que sa carrière, j'espère que la carrière de ce juge ensuite s'arrêtera, qu'elle sera nommée au greffe, je sais pas, à Tulle ou à...
Ouais. Ça me rappelle, il y a un tweet d'un type, je sais pas qui c'est, mais enfin, qui revient de temps en temps, un tweet d'un gars qui avait dit en 2020, après la censure sur multiples plateformes de Donald Trump, il disait, je n'ai pas vu d'effet secondaire négatif de quelque nature que ce soit à la censure de Donald Trump. Bon bah 4 ans plus tard, il a eu une mauvaise surprise le gars.
Et en plus, comme c'était sur X,
oui.
À l'époque c'était, je sais plus comment ça s'appelait.
À Twitter, oui.
Twitter, sur X, et la première truc c'est qu'il a été viré le gars, parce que ça a été racheté par...
Par Musk. Oui.
Par Musk, et j'ai vu que maintenant la valorisation boursière de X était en train de revenir au niveau où il l'avait acheté.
Oui, tout à fait.
Donc ce coquin, il va gagner de l'argent.
Bah oui, parce qu'en plus de ça, là récemment il a fait faire une acquisition par la société XAI, donc qui s'occupe de l'intelligence artificielle et tout, donc forcément comme maintenant il y a l'outil Twitter qui est devenu X, mais il y a tout ce truc d'intelligence artificielle qui va avec, qui est
vaut de l'argent.
Ça vaut énormément d'argent, effectivement. Donc il y a eu des investissements supplémentaires qui ont été faits depuis, mais effectivement la valeur globale est...
Ça me rappelle un truc qui m'amuse beaucoup, c'est que j'ai vu un dessin, vous savez, sur une dame qui rentre chez elle et qui dit à son mari, qui est là en pantoufle en train de lire le journal, j'ai acheté toutes les valeurs de défense qu'il fallait acheter, et son mari dit, très bien, maintenant j'espère que la guerre va commencer.
Bah oui. Ah bah faut espérer pour eux, oui. Parce que sinon...
Ce que je veux dire par là, c'est que parfois vous prenez des décisions en disant, ouais, je vais gagner plein d'argent, et puis vous réfléchissez pas que vous gagnerez plein d'argent s'il y a des tas de jeunes Français qui vont se faire tuer. C'est quand même un peu couillon, quoi.
Bah oui, bien sûr.
Mais ça, c'est ce qu'a fait cette dame. Elle est bête comme un âne qui recule, cette dame. Ouais. Parce qu'elle va faire élire, le Rassemblement National.
Ouais.
C'est ce qu'elle va faire. Bravo madame, faudra recommencer.
Ouais, effectivement, moi c'est la première chose que j'ai pensé, puisque d'abord il y avait eu la culpabilité qui était admise avant qu'il y ait les peines. Je me suis dit, la culpabilité suffit à la rendre de fait quasiment inéligible, c'est-à-dire que pendant toute la campagne elle va se prendre ça dans la tête, en sachant que du coup la justice aura été plutôt clémente avec elle, donc voilà. Et là, c'est pas du tout ce qui ressort de cette décision. Donc, à mon avis...
Non, elle va faire élire le Rassemblement National. Cette dame, ce sera la principale contributrice à l'élection du Rassemblement National dans 2 ans.
Effectivement.
Je suis prêt à prendre des paris.
Ouais. En tout cas,
madame.
Je pense que ces chances viennent d'augmenter largement.
Largement. Merci, madame. On peut compter sur la justice.
Et d'ailleurs, aussi, point technique, sur l'exécution provisoire, on dit que l'exécution provisoire est très... c'est conçu comme un outil, pénalisant, mais pareil,
si
elle a le jugement en appel, par exemple, qui modère la peine d'inéligibilité de 5 ans à 2 ans, comme l'inéligibilité a déjà commencé, ça veut dire que pour une élection en 2027, elle pourra se présenter. Alors que ça n'aurait pas été le cas.
Si elle peut être désavouée par la cour d'appel complètement.
Oui, absolument.
Et ce qui veut dire qu'à ce moment-là, moi, madame, je donnerai ma démission.
Oui, bon,
j'irai
c'est
travailler
pas...
comme femme de ménage,
technicienne de surface. Je pense que là, c'est plutôt le genre à dire que la cour d'appel n'a rien compris au droit.
Moi, j'entends bien, mais quand on est désavoué par ses autorités dans ma famille, etc., il était de bon ton de démissionner quand... Et je trouve que tous ces fonctionnaires, ces juges, etc., qui font erreur sur erreur, peut-être ils peuvent pas les, on peut, bon, ils devraient démissionner, ou alors on devrait pouvoir les démissionner.
Mmh. Oui.
Et ça, par un jury populaire, tiens.
Ouais, ah bah ça je.
Ce serait bien de pouvoir virer les juges par des jurys populaires.
Oui, oui, je suis pas forcément contre, effectivement. on aura peut-être besoin de passer par là. Enfin voilà, je crois qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette affaire.
Mais en tout cas, comment elle s'appelle cette dame ? Il faut la remercier parce qu'elle a fait pour la droite plus que tous les gouvernements, Monsieur Retailleau,
ouais.
Monsieur Wauquiez et tout ça, plus que n'importe qui n'en avait jamais fait. C'est bien, c'est madame. Clair. Continuez.
Ouais, je ne sais pas comment elle s'appelle, ça m'intéresse très peu, mais effectivement, à mon avis, sur le long terme, on reparlera de cette décision, pas de la même manière dont la droite aujourd'hui en parle. Parce qu'à mon avis, il y a l'après, c'est plutôt favorable à ce camp politique que défavorable, à mon avis. Donc voilà. Je vous remercie, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, encore une fois, sur l'Institut des Libertés.
Merci mille fois.
Ça, c'est ce que 100 euros stockés depuis 2015 valent aujourd'hui, en 2025, après l'inflation, officiel phénomène d'érosion des valeurs monétaires. 100 euros de 2020 valent déjà seulement 87 euros d'aujourd'hui, selon l'INSEE. Sur ces 5 dernières années, même le livret A ne permettait pas de contrecarrer cet effet. Alors, comme 70% des Français, vous ne vous estimez pas légitime pour vous occuper vous-même de vos finances et investir en bourse, car investir comporte des risques. C'est vrai, mais vous pouvez très rapidement démystifier la complexité apparente du monde de l'investissement. Les actifs comme les actions ou l'or surperforment largement l'inflation sur le long terme et permettent de se constituer une petite retraite sympathique. Pour prendre les choses en main et devenir un investisseur indépendant, ça se passe ici, sur l'Université de l'Épargne.